Bonjour, Jean-Luc Gadrou avec vous sur France Culture pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Deuxième rendez-vous de cette série exceptionnelle du mois d'août à Lourmarin, en plein cœur du Festival des Arts de la Parole. Émission enregistrée le mois dernier sur la terrasse de l'Hôtel du Moulin pendant ce festival. Un projet qui est né d'un lieu, d'un instant, d'une promesse, celle que la parole, quand elle est juste, vivante et partagée, peut ouvrir un monde. Artistes, penseurs, comédiens, musiciens, théologiens, élus ou bénévoles, toutes et tous sont venus nous parler simplement à voix nue. Morceaux choisis de ces rencontres, en public, le temps d'un café, un espace de rencontre où les mots prennent leur temps et leur sens. Avec aujourd'hui Bérangère Varluzel et Charles Berling pour Fragment, un spectacle autour de la pensée d'Anna Arendt. Nous aurons aussi trois jeunes lycéennes et puis leur professeur de philosophie autour de plaidoiries qu'elles ont présentées à Lourmarin. Et enfin la pasteur Céline Romer avec qui nous commencerons. Point commun sans doute, l'impossible de la vie face à nos pensées, face à nos choix, face à nos actes. Bonjour Céline Romer.
Bonjour.
Vous allez interroger le oui et le non d'une certaine façon ce matin. En tout cas, une parole qui engage, qui peut se dérober aussi ou qui revient. Si je vous dis un père avait deux fils, est-ce que comme moi, d'abord vous pensez à celle dite du fils prodigue ?
Alors je crois que tout le monde aura cette parabole tout de suite à l'esprit. C'est une parabole que l'évangile de Luc nous raconte. Mais alors comme j'ai une tendresse toute particulière pour l'évangile de Matthieu, je dois avouer que je pense aussi assez rapidement à celle de Matthieu, chapitre 21. Un homme avait deux fils. Effectivement, un père va à la rencontre de ses deux fils.
Avec une proposition de travail à faire, enfin une proposition, une demande même très concrète.
Un appel, va aujourd'hui travailler à la vigne.
Et puis il va y avoir deux attitudes, on va en parler.
Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ?»
Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit
« Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. »
C'est ce texte que vous avez choisi d'évoquer donc ce matin pour l'ouverture du festival. Pourquoi ?
Parce qu'une parabole, c'est une histoire dans laquelle on peut se plonger tout à fait librement et puis qui nous invite à l'interprétation. D'ailleurs, Jésus commence cette parabole en disant « Qu'en pensez-vous ? » Donc on est bien convoqué là pour donner notre avis. Et alors là, vraiment, dans cette parabole, on a un champ exploratoire fantastique pour réfléchir à ce que signifie dire et faire. Est-ce qu'on dit ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait ce qu'on dit ? Est-ce qu'on est obligé de faire ce qu'on dit. Et là, cette parabole, et on est en plein dans cette thématique-là.
Les deux fils ne réagissent pas du tout pareil et ne font pas du tout les mêmes choses.
Exactement. Alors, il y en a un qui, tout de suite, va dire à son père « Je ne veux pas ». Et puis finalement, on nous raconte qu'il y va et puis qu'il travaille. Et puis il y en a un autre qui dit « Moi, maître, mais bien sûr hein, !» Et puis finalement, il n'y va pas. Et Jésus nous demande de valider l'un ou l'autre de ses parcours. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Voilà, le piège est là, le piège de la parabole est là, ou le jeu de la parabole, disons.
Et alors ce matin, vous allez en valider une plus que l'autre ou pas ?
Alors je crois que c'est justement à ça que joue la parabole, c'est de nous forcer la main à valider l'un ou l'autre. Je ne pense pas que ce soit le but final pour Jésus. Je crois qu'il est en train d'amener ses opposants et ses adversaires justement à réfléchir à la valeur qu'il donne à leur dire et à leur faire.
Dans un monde justement peut-être aujourd'hui saturé de mots, de déclarations, de postures, que vaut encore un oui ou un non pour simplifier les choses, même si là, dans la parabole justement, ça n'est pas si simple.
Oui, d'ailleurs, c'est toujours amusant de se rappeler que cette parabole, il faut la relier aussi à ce que dit l'évangile de Matthieu juste précédemment, c'est-à-dire que votre oui soit oui et que votre non soit non, tout le reste vient du malin. Ouais. Et on s'aperçoit que dans cette parabole des deux fils, bah, ils disent ni oui ni non en réalité. Ouais. Donc on peut supposer que tout ce qui leur arrive et tout ce qui est dit vient du malin. Mais ça, c'est autre chose. Mais effectivement, on est dans un monde où les êtres humains donnent beaucoup d'importance à leur propre parole et posent leur parole en valeur ultime. Soit on s'imagine avoir tout dit et tout savoir, soit on se joue de la parole et on la manipule et ce n'est que prétexte pour dominer en réalité les situations et puis bien plus souvent dominer les êtres.
Ouais. Alors justement, cette parabole semble suggérer que le faire vaut plus que le dire. Et on est quand même dans un festival centré sur la parole, sur le dire. Alors comment peut-on concilier tout cela ?
Peut-être en se demandant au nom de quoi on fait et au nom de quoi on dit. Peut-être, comme Jésus, je pense, nous y invite dans cet extrait, en se rendant compte, en réalisant que c'est une autre parole qui vient nous travailler et vient nous chercher. Et je crois que cette parabole nous rend attentifs, non pas tant à ce que disent les fils et ce que font les fils, mais plutôt à l'appel du Père, c'est-à-dire une parole première, initiale, qui ne vient pas de nous, qui est extérieur à nous, qui nous appelle, et c'est au nom de cette parole-là qu'on peut se lancer librement, de manière créative, justement, dans ce travail de la vigne.
Et est-ce qu'à vos yeux, l'art, la musique, vous parliez de poésie tout à l'heure, peuvent devenir aussi des formes de prédication alors ?
Oh, mais bien sûr, ouais. Ce sont des prédications. Hier soir, nous avions la chance d'assister à une magnifique lecture du texte de Jean Giono par Robin Renucci, mais c'était une prédication qu'il nous a faite. J'avais envie de dire amen à la fois.
Et d'ailleurs, on était très très proche d'une parabole.
Absolument. Oui. Mais parce qu'à partir du moment où on travaille les mots, on travaille la langue, on joue sur les failles, sur les images, sur les systèmes de représentation du langage, et ce sont à travers ces failles que la parole de Dieu peut s'immiscer et qu'on peut l'entendre. Et je crois que, comme tout poète, les artistes cherchent justement à faire parler ce qui vient de plus loin que nous, ce qui vient de plus haut que nous. Alors, quand on est chrétien, eh bien, on donne un nom à cette parole-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Quand on n'est pas chrétien, on la nomme peut-être autrement. Pour moi, elle a un nom, elle a même été incarnée une fois sur cette planète, et elle s'appelle Jésus-Christ.
En quoi cette parabole, celle de ce père et de ses deux fils, peut-elle devenir une parole d'espérance, de transformation, alors pour les croyants comme pour les curieux ? Hier soir, justement, Robin Renucci a fait le choix de terminer positivement son récit, alors que dans le livre, les choses
sont un petit peu plus tristes,
plus compliquées. Et il a assumé le fait de choisir de rester sur une parole d'espérance.
Alors d'abord, j'en suis vraiment ravie d'avoir entendu Robin Renucci dire cela et assumer cela pleinement, parce que on pourrait toujours soupçonner de naïveté ou de joie béate cette volonté de maintenir l'espérance ouverte. Mais cette parabole, elle participe de cette même espérance, c'est-à-dire qu'il y a avant tout toujours un appel qui vient nous rejoindre. Il y a un père qui appelle, qui cherche à nous rencontrer, à nous envoyer à la vigne, et ça, c'est fondamentalement une parole d'espérance, c'est-à-dire que nous sommes toujours cherchés par quelqu'un. Dieu vient à nous, et je crois qu'en ça, la parabole est porteuse d'une immense espérance. Même quand on dit non, même quand on rejette, même quand on ne veut pas y aller, même quand on n'y va pas, même quand on fait mal, reste cet appel du Père. Allez, aujourd'hui, vas-y, je suis là, vas-y. C'est ça la grâce.
Alors pour conclure ce café matinal, ce temps du café, si vous pouviez glisser une parole, une phrase ou même juste un mot dans la tasse de café de chaque auditeur ce matin, peut-être comme une semence de joie ou de confiance.
Alors je redirai peut-être l'appel du Père dans cette parabole. Va aujourd'hui travailler à la vigne et se souvenir que la vigne, c'est une promesse de fruits, c'est une promesse de vin, c'est une promesse de réjouissance, c'est une promesse de rassemblement. Cet appel, il est à la fois pour toi, pour moi, et en même temps, c'est un travail commun à élaborer.
Merci Céline Romer.
Merci beaucoup.
Chaque être humain éprouve le besoin de penser, non pas penser de manière abstraite, ni pour répondre aux questions ultimes sur Dieu, l'immortalité, la liberté, mais rien d'autre que penser pendant qu'il vit.
Madame Arendt, vous avez fui l'Allemagne en 1933 Parce que vous étiez juive. Oui, c'est évident. Il était devenu impensable d'être indifférent en 1933.
À quoi bon penser ? C'est ainsi que je formulerai ce que vous tous ici vous demandez. Pourquoi diable faites-vous tout cela ? J'ai la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut. Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui.
Bonjour Bérangère Varluzel, bonjour Charles Berling.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin à Lourmarin pour cette 5e édition du Festival des Arts de la Parole. Bérangère Varluzel, votre seule en scène, Fragment, donne à entendre avec justesse et passion la pensée d'Anna Arendt, cette invitation à penser sans entrave. À travers vos mots, vos gestes, vos choix scéniques, vous nous offrez un véritable voyage intérieur. Pourquoi avoir déjà choisi Anna Arendt et ses passages précis ? Qu'est-ce qui a guidé votre sélection ?
Mon rapport personnel à Anna Arendt est très fort. Elle a, je peux dire, changé ma vie. J'ai pensé qu'il était important de livrer ce sentiment que j'avais eu en lisant, parce que je me suis sentie guidée par elle. Elle dit dans une interview « Je ne sais pas comment faire naître le désir de penser. Je sais que tout le monde peut penser comme moi, mais je me pose la question de comment faire naître ce désir de penser. » Et chez moi, elle l'a provoqué. Elle m'a touchée profondément à ce point-là. Et j'ai voulu l'aider, on va dire, lui donner la parole sur scène. Et je suis allée voir Charles et je lui ai proposé ce projet. Dans ses textes, on a mis aussi beaucoup de poésie.
Charles, vous êtes le metteur en scène, et ce depuis déjà plusieurs années. Le spectacle a été monté pour Avignon en 2021.
Ah oui, c'est ça. Il a été créé pendant le Covid. En 2020, on l'a travaillé. On a voulu très vite que les gens se retrouvent autour d'une table, ce qui n'était plus possible pendant le Covid. Et donc, tout ce que raconte Anna Arendt sur le lien social, le bien public que constitue la nécessité de se voir, de se parler, de dialoguer, c'est-à-dire même la valeur d'une table autour de laquelle on peut se mettre, elle le dit très bien, qui peut à la fois nous séparer et nous relier, c'est-à-dire nous mettre à bonne distance les uns des autres pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger, pour pouvoir construire quelque chose à travers nos pensées et nos diversités, justement, de façon de penser.
Et alors, justement, comment s'est réfléchi la mise en place scénique de tout ça ? Alors, donc, la table et...
C'est né de cette douleur de la séparation que nous vivions pendant le Covid, d'être chacun confiné chez nous. Et à partir de là, les textes d'Anna Arendt, moi, j'ai tout de suite senti que le montage que proposait Bérangère était apte à nous donner de la joie, c'est-à-dire la joie de se retrouver ensemble, de critiquer, d'échanger, de pouvoir penser, et que le théâtre, c'est le lieu de la parole. C'est le lieu précisément de la rencontre, au fond, d'être ensemble pour pouvoir se retrouver autour d'un esprit. Alors là, dans la mise en scène, dans la façon de le mettre en scène, j'ai voulu un petit peu faire ressurgir, puisque le théâtre c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est le lieu des fantômes. Et donc pour moi, le fantôme d'Anna Arendt devait planer au-dessus de ce spectacle et pouvait faire en sorte que tout ce qu'elle nous raconte passe la mort, c'est-à-dire soit relié à nous indéfectiblement comme le bien profond de l'humanité. C'est comme ça qu'on a voulu travailler et que progressivement... On a pu élaborer en 2020 ce spectacle qui est sorti en 2021 et depuis on le joue avec Bérangère le joue.
C'est intéressant d'ailleurs de dire on en tant que metteur en scène, oui. Justement. C'est un travail collectif, vraiment.
Ah oui, tout à fait. Oui. On a même pendant plusieurs années, Bérangère, il se trouve que Bérangère a 4 enfants avec qui elle a une relation extrêmement forte au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire elle a beaucoup travaillé avec eux pendant qu'ils étaient petits et écoliers.
L'école à la maison.
À la maison, parce que bon, ils étaient avec un père chef d'orchestre, donc ils partaient de par le monde. Et donc, quand j'ai vu la relation qu'elle entretenait, justement, de pensée, en fait, de savoir, d'amour mélangé au savoir, parce qu'Anna Arendt, c'est ça, c'est qu'elle n'est pas seulement une grande penseuse, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses contradictions, qui n'a pas peur d'aimer dans ce sens-là, qui n'a pas peur de manifester ses paradoxes. Et donc, je voyais cette relation qu'elle entretenait avec ses enfants, et comme ça, on avait une version... maintenant, ils sont trop grands. Mais on avait une version où les quatre enfants étaient sur scène avec elle. Ah, oui. Et ce qui me paraissait, ces deux filles étaient comme une Anna Arendt de 16, 17 ans. Mm-hmm. Et puis les deux garçons construisaient pendant ce temps-là. Mais ça a été très important parce que c'est un spectacle qui voulait montrer tout ce qui est possible de très simple et de très évident avec ce qu'on appelle la pensée.
Comment cette aventure personnelle vous fait avancer depuis la mise en place de ce spectacle ?
Alors, non seulement elle me fait avancer moi, mais aussi, on va dire, tous les membres de ma famille, mes enfants, qui ont donc participé à ce spectacle et qui vivent vraiment avec elle maintenant. Ouais. Ils réfléchissent avec elle. Enfin, c'est-à-dire qu'elle nous donne les outils pour réfléchir n'importe quelle situation. Enfin, moi, je le vis comme ça. Donc, c'est vrai que ce soit des situations amoureuses, affectives, politiques, sociologiques. À chaque fois, elle revient, en fait.
Le fait d'avoir envie de faire du théâtre avec ces textes, pour moi, le spectacle est un petit peu la démonstration de ça, c'est que on peut la parole est bien au-delà d'une idée. La pensée, ça n'est pas une idée. La pensée, c'est une sorte d'équilibre absolument magistral, magique, entre l'émotion, le cerveau, la façon d'appréhender le monde, la vue, tout ce qui fait la pensée critique, donc tout ce qui fait qu'on est en permanence en train de se mesurer avec les autres. Mais de façon, évidemment, à la fois critique, mais pacifique, au fond. C'est-à-dire, non pas pour détruire l'autre, mais pour se construire avec l'autre. Et donc, il y a théâtre parce qu'il y a cette confrontation, et on sent que quand elle joue, tout est fait dans la conception de ce spectacle pour faire que l'émotion de la joie de cette pensée soit palpable. On a été surpris quand le spectacle est sorti de sentir la grande émotion que les mots d'Anna Arendt pouvaient provoquer chez les gens qui regardaient, parce que tout ce qu'elle raconte, même si ça date des années 50, 60 du XXe siècle, nous touche profondément, c'est-à-dire nous bouleverse dans le sens qu'aujourd'hui, il y a un véritable recul de la pensée, il y a une agression contre la pensée, une agression politique, une agression sociale, une agression à tout point de vue. Et elle dit d'ailleurs cette chose magnifique au tout début, quand elle dit « Il n'y a pas de pensée dangereuse pour la simple raison que c'est le simple fait de penser qui est dangereux ». Et donc, aujourd'hui, rien que d'entendre ça, c'est bouleversant parce que nous savons, nous sentons, nous pressentons tous que nous sommes dans un moment extrêmement violent, extrêmement un tournant comme ça, où la pensée elle-même, la liberté de penser, est menacée. Et c'est ce qui fait qu'on a vu des gens sortir en pleurant, n'est-ce pas ? Mais pas parce qu'ils étaient affligés, mais parce que ça leur rappelait quelque chose en eux qui est une volonté profonde.
Comme une urgence qui jaillit.
Oui. Et en ce sens-là, Anna Arendt est vraiment quelqu'un qui nous construit. Parce que justement, et c'est en ça qu'elle est pour moi théâtrale, c'est qu'elle évoque aussi ses contradictions.
Oui, pardon, Bérangère, je réagis très fort parce que c'est quelque chose qui me touche chez elle beaucoup, c'est la contradiction. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle peut dire quelque chose et quelques phrases après, dire presque l'inverse, mais
ces deux pensées
vont ensemble et créent ce moment, cet endroit-là spécial où il se passe quelque chose en nous.
Lourmarin, cadre rural, humanisme, vient s'ajouter aussi avec le festival une dimension spirituelle, puisque ce festival a cette particularité de mélanger les gens, de parfois nous faire aller dans une direction plus en lien avec la foi, et puis à d'autres moments sur d'autres registres.
Ben, je citerai une phrase de René Char, qu'elle cite elle-même, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». C'est-à-dire qu'effectivement, Anna Arendt vit avec la culture qu'on lui a donnée. Elle va puiser dans cette culture, elle va puiser des choses, des éléments, aussi bien dans la foi, dans les textes bibliques, que dans le théâtre, que dans la philosophie, etc. Voilà, elle se constitue comme ça.
Complètement, c'est-à-dire, c'est pour ça que le spectacle s'appelle Fragment. C'est quelque chose de fragmentaire, ce qu'elle propose. Ça n'est certainement pas une idéologie bien unitaire, bien ordonnée. C'est un chemin, un héritage très chaotique qui s'inscrit à l'intérieur d'un magma comme ça, assez informe, celui que nous vivons, mais qui peut bien procurer, tout d'un coup, donner des éclairs de lumière, en tout cas, proposer à chacun de se retrouver en face de ses responsabilités et de sa liberté. Ce qui est très difficile, et nous le mesurons chaque fois.
Pour conclure ce café, si vous pouviez laisser un fragment de pensée, un mot, une idée, une parole, que l'on pourrait placer dans la tasse de café de nos auditeurs, quelle serait-elle, Bérangère ?
Penser ce que nous faisons.
Très bien. Et moi, je citerai Saint-Augustin qui disait « Je suis arrivé à force de ma volonté où je ne voulais pas ». Merci beaucoup. Merci.
Bonjour Charlotte Cabanne.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie ?
Oui, tout à fait, au lycée des Iscles de Manosque.
Et vous êtes au Festival des Arts de la Parole parce que vous accompagnez des jeunes avec qui vous avez travaillé autour de plaidoiries.
Tout à fait, ce sont des élèves volontaires qui ont participé toute l'année à un atelier d'éloquence et à un concours d'éloquence que j'organise. Voilà, j'ai créé ce projet un peu de A à Z sur mon lycée, donc voilà, avec des ateliers qui les entraînent toute l'année et en la fin un beau spectacle pour le lycée avec la possibilité de s'exprimer, de faire des belles plaidoiries qui vont présenter aujourd'hui.
Juste quelques mots peut-être sur ces plaidoiries. Il y avait une thématique en lien justement avec le festival à partir d'une phrase de Mark Twain.
Alors c'était pas directement en lien avec le festival, mais les plaidoiries sont suffisamment larges pour que ça
permette... Pour arriver à rejoindre.
Voilà, pour arriver à rejoindre. Hein. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça la phrase cette année. Et ça permet voilà, à certains élèves, à partir de leur goût à eux, de leurs intérêts, de développer une plaidoirie.
Et qu'est-ce qui ressort dans ces plaidoiries, peut-être des thématiques que vous avez repérées ?
Oui, souvent la question du racisme, des migrants, de nombreuses thématiques qui vraiment leur tiennent à cœur, mais ça revient souvent sur des thèmes politiques. Ouais.
Ouais, des choses qui sont directement en lien avec leur expérience et leur regard peut-être du monde actuellement ?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on est toujours étonné de voir le niveau... de leur plaidoirie, l'investissement, l'implication qu'ils ont. C'est assez bluffant de voir la capacité et la maturité de ces élèves.
Donc ma plaidoirie, elle est sur le racisme et je trouvais ça très important d'en parler aujourd'hui parce que c'est encore très présent dans le monde, de partout, y compris ici. Ben, je veux que les gens soient touchés et qu'ils pensent leurs mots.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler comme ça, de faire ce travail autour de l'art oratoire et de défendre une idée ?
Ben, j'ai appris à mieux m'exprimer à l'oral. Ça nous permet de gérer notre stress, même si là, je suis très stressée. Et aussi, on rencontre des très belles personnes et on peut partager. Voilà. Et c'est magnifique.
Et tu as quel âge ?
15 ans.
Merci, Nawel.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors... Ils l'ont fait. Chaque cause mérite d'être défendue, mais aujourd'hui, j'en ai choisi une qui me tient particulièrement à cœur. Mark Twain l'a inscrit comme étant probablement un hymne à la résilience humaine, à cette capacité unique d'une personne à se battre pour ses droits, sa liberté, à se révolter afin de changer le cours du temps. Je suis devant vous pour aborder une question qui, malheureusement, reste brûlante et divise notre société. Le racisme. Cet horrible fléau qui sépare, exclut et prive les individus de leur humanité, où va-t-il nous mener ?
Alors Richelle, toi tu viens du Costa Rica, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc moi j'ai 18 ans, ça va faire bientôt 7 ans que j'habite en France. Et j'ai fait une plaidoirie sur un peu les inégalités entre pays pauvres et pays riches, donc pays en développement, pays développé, en quelque sorte. Ça m'a apporté de la colère, si je peux dire, parce que en faisant quelques recherches sur les entreprises multinationales, on se rend compte qu'en fait, il y a tellement d'écarts qui sont juste créés par l'humain directement, Donc j'ai particulièrement cherché les multinationales qui exploitent les ressources naturelles, qui exploitent les gens dans les autres pays, et c'est assez révoltant. Après, j'ai aussi essayé d'avoir de l'espoir quelque part, de la reprise en main par l'humanité, mais dans son sens humanitaire, d'entraide et de gentillesse quelque part.
Merci Nawel.
Nous vivons dans un monde où l'on nous vend l'idée que, en toute chose, l'on ne reçoit qu'à raison de ce que l'on donne. Une belle idée, n'est-ce pas? Pourtant, dans la réalité, dans notre société, cette équation n'a jamais été si décalée. Si l'on creuse un peu, on tombe dans la triste réalité de cette affirmation. Ce principe d'échange équitable ne se trouve pas dans tous les aspects de notre société.
Esther, et tu as quel âge ?
Je vais avoir 17 ans, je vais passer en terminale.
Et toi, le sujet de ta plaidoirie ?
C'est Malala Yousafzai. Je raconte son histoire, mais je mets en avant ses combats, donc sa lutte pour l'éducation pour les filles, pour les femmes et pour les enfants. Alors que les talibans ont une influence grandissante, c'est à peine 11 ans, aux côtés de son père, qu'elle prend la parole en public. Les talibans vont jusqu'à lui tirer dessus. Elle est gravement blessée, mais elle arrive à s'en sortir et elle continue encore son combat aujourd'hui.
Et qu'est-ce que tu tires de tout ce travail que tu as fait sur elle, et puis le fait de le retransmettre sous forme de plaidoirie comme ça du public ?
Ça apporte toujours de la connaissance, de l'admiration aussi pour cette personne, parce qu'on apprend son histoire en même temps qu'on essaye de la faire apprendre aux autres. Et on essaye de transmettre de ses valeurs, mais aussi d'ajouter ce qu'on ressent nous par rapport à sa situation. Et ça apporte beaucoup de plaisir, parce que déjà on délivre un message.
Alors que les talibans ont une influence grandissante, c'est à peine 11 ans, aux côtés de son père qu'elle prend la parole en public. Non pas comme moi devant vous aujourd'hui, puisque je pense, et je l'espère, ma parole ne me met pas en danger. Mais pour Malala, la prise de parole n'est pas innocente et sans menace. Sa parole peut la trahir et mettre sa vie en péril. Car non seulement elle témoigne des interdictions imposées à son peuple, mais elle lutte contre la restriction de l'accès des filles à l'instruction.
Merci Esther. En écho à Mark Twain, également à Hannah Arendt et sa banalité du mal, mais aussi à la parabole de cet homme et de ses deux fils, la chanson de Sarah Kroger, Impossible Things, qui nous met face à une grande question: que pouvons-nous accomplir d'impossible ?
Same dance, same song, through my sighs and groans, barely holding on. You were enough for me then, you'll be enough for me now, and that's enough to hold a little longer. For impossible things, you do impossible things. You open my eyes that I will survive this impossible thing.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Vincent Abouchard et avec Stéphane Touvenin à la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin sur France 2 à 10h dans Présence protestante, c'est la rediffusion d'un documentaire de Didier Gruel, Free Burma Rangers, les anges gardiens de la Birmanie. Mais pour le moment sur France Culture, Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour la troisième proposition de cette série, où nous entendrons le maire de Lourmarin, le directeur de la fondation protestante Flamme, un slammer, Naïm Zriwel, et une discussion autour de la nouvelle pièce de la compagnie SketchUp, Les Galaxies d'Alix. Et je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.